Se confiner sur le 93.9 détend les esgourdes et déradicalise les fachos, paraît-il. Va falloir qu'on parte à la conquête d'un paquet d'auditeurs et d'auditrices d'ici 2022. Il est 19h et c'est jusqu'à nouvel ordre sur Radio Campus Paris.
Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre.
Quel silence, hein.
Il veut nous guérir du coronavirus à travers l'écran.
Il n'y a pas de virus, il n'y a rien du tout pour moi, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, comme les grippes, comme d'habitude, rien.
Ça va?
Oui, très bien.
Petit coup de coude, même à distance maintenant.
Je suis plutôt namasté, moi.
Ça va alors?
J'ai donc décidé, jusqu'à nouvel ordre.
Je veux dire, la vague arrive, elle va arriver ici et ça va secouer sérieusement.
Aujourd'hui, on sait très bien que la situation sanitaire, elle est grave.
À partir de ce lundi, jusqu'à nouvel ordre.
Jusqu'à nouvel ordre. Le journal de bord et des débordements des bénévoles de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi, à 19h.
Gérald, il est choqué par les images, hein. Choqué par les images, il dit. C'est bizarre cette expression quand même, être choqué par les images. Parce que quoi? Si on n'avait pas eu les images, mais juste les témoignages, il aurait été moins choqué, le ministre de l'Intérieur? Si on avait juste eu un tweet, un journaliste frappé à terre par un policier? Ou une dépêche AFP? Place de la République, des forces de l'ordre soulèvent une des tentes alors qu'une personne est encore à l'intérieur pour la déloger en la faisant tomber sur le sol. Il n'aurait pas été choqué? Je sais pas moi, mais c'est pas les images qui me choquent, c'est ce qu'elles montrent. C'est la chasse à l'homme dans les rues de Saint-Denis, hier, de Paris, aujourd'hui. C'est la gorge nouée d'une amie quand elle me raconte la mise à l'abri, et apprécie mon interprétation orale des guillemets, la semaine dernière, et ces centaines de personnes pourchassées et harcelées par la police parce qu'on n'avait pas prévu assez de place, assez de bus pour les emmener. Les images, elles me choquent pas. J'ai pas besoin d'elles pour être révolté. Mais peut-être que dans l'esprit rétréci de certaines personnes haut placées, il ne reste encore que la force de l'image pour réveiller une empathie atrophiée. Que la violence des actes commis de sang-froid, sans hésitation, sans doute, au nom de l'obéissance et d'un maintien de l'ordre complètement biaisé. Et encore, je dis réveillé, mais hier, la loi sécurité globale a été votée. Que Gérald se rassure, ça sera encore un peu plus dur de filmer de quoi le choquer.
Jusqu'à nouvel ordre, du lundi au jeudi, à 19h, sur Radio Campus Paris.
Bonsoir auditrices et bienvenue dans Jusqu'à Nouvel Ordre, l'émission confinée de Radio Campus Paris. Je suis Pitou mais ready pour t'emmener en balade dans l'actualité ce soir. Pas de floutage ni de hold-up, on a de l'info fraîche et vérifiée. Tu allumes ta radio pour ça et tu consommes local en plus, franchement c'est chambé. Au sommaire de ce mercredi 25 novembre, la santé mentale des étudiants et étudiantes pendant ce nouveau confinement. Déjà que la bouffe du Crous et les soirées pharma foutent en temps normal ton moral dans les chaussettes du voisin du dessous, avoir 20 ans en ce moment, c'est un peu comme être une femme... Mais depuis la nuit des temps, hein, c'est pas oufissime. Pour en parler, nous sommes allés interroger une étudiante en médecine, ainsi qu'un bénévole et un membre du conseil d'administration de Nightline, une plateforme d'écoute pour les étudiants et étudiantes.
Ce soir également, Nolwenn a interviewé à distance Marine Guizzi, la réalisatrice du documentaire « Alors heureuse », en inclusif, qui sera diffusé par Arte.
Mais tout d'abord, Glenn Gillet, de la rédaction de Radio Campus Paris, a quelque chose à nous dire. Il y a un an se tenait le Grenelle contre les violences conjugales. À sa clôture, le gouvernement a entre autres annoncé les mesures de prévention qu'il comptait mettre en place. Parmi elles, l'ouverture à la concurrence de l'attribution du 3919, la plateforme téléphonique qui réceptionne les appels des victimes de violences conjugales. Cela veut-il pour autant dire que ce service d'urgence est condamné entre les mains impitoyables du marché? Glenn Gillet nous en dit plus.
Ouvrir la gestion de l'accompagnement des victimes de violences conjugales à la concurrence, voilà qui semble être une idée particulièrement cynique. Mais c'est bien un projet annoncé par le gouvernement la semaine dernière et qui était déjà inscrit dans les conclusions du Grenelle contre les violences conjugales organisé il y a pile un an. Mais de quoi parle-t-on exactement? Le 3919, peut-être que vous le savez, c'est le numéro dédié aux personnes victimes de violences conjugales, très majoritairement des femmes. Pour la petite histoire, cette plateforme d'écoute a été créée en 1992 et est gérée depuis par la Fédération Nationale Solidarité Femmes, la FNSF. Très concrètement, ce sont une trentaine d'écoutantes professionnelles qui répondent 7 jours sur 7 aux appels de personnes victimes de violences conjugales et qui les accompagnent pour qu'elles puissent sortir de situations souvent très difficiles. Environ 2000 appels sont reçus chaque semaine, et ce nombre avait explosé pendant le premier confinement. Avec près de 45 000 appels en moins de 2 mois, les écoutantes avaient été sollicitées presque autant de fois que sur la moitié de l'année 2019. Ce service est donc d'intérêt public et tout le monde l'a bien compris, même le gouvernement.
Mais alors, pourquoi chercher à ouvrir le 3919 à la concurrence si le service fonctionne ?
C'est en effet ce paradoxe que dénoncent de nombreux militants. Pour tout comprendre, il est d'abord important de clarifier les motivations affichées du gouvernement, car celui-ci sait bien qu'un appel d'offres pour s'occuper des violences conjugales risquait de poser problème pour l'opinion publique. L'une des conclusions du Grenelle que j'évoquais tout à l'heure a été de nationaliser le 3919. Et oui, nationaliser, un terme qu'on aurait pourtant du mal à coller au gouvernement actuel. Pour comprendre ce que cela veut dire, il faut s'intéresser brièvement au financement de la plateforme. Celle-ci dispose d'environ 2 millions d'euros de budget annuel, dont 80% sont octroyés par l'État via des subventions. Les 20% restants proviennent quant à eux de collectivités locales et de mécènes. Or, l'État a décidé, lors du Grenelle, qu'il souhaitait faire du dispositif un véritable service public, et donc le financer à 100%. Au-delà du coût de com politique plutôt avantageux pour un gouvernement souvent accusé de mésestimer la question des violences conjugales, cela impliquerait un contrôle accru de l'État. Pour Elisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, l'avantage principal serait de rendre le 3919 disponible 24h sur 24, ainsi que pour les personnes sourdes, malentendantes ou qui ont des troubles du langage, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et pour ce dernier point, selon les associations féministes et le FNSF lui-même, eh bien c'est une bonne chose.
Du coup, qu'est-ce qui pose problème en réalité ?
C'est la notion de concurrence qui est au cœur des débats. En faisant du dispositif un service public à l'horizon 2021, l'État est légalement contraint de réaliser un appel d'offres et donc de mettre différents organismes en concurrence, théoriquement pour éviter le favoritisme. Mais une question se pose alors chez les personnes qui militent contre cette nationalisation. Qui de plus qualifié pour aider les victimes que la Fédération Nationale Solidarité Femmes, qui œuvre depuis 30 ans pour accompagner chaque personne en difficulté, notamment pour ce qui est de l'écoute et de l'aide matérielle et psychologique ? Les responsables du FNSF craignent en réalité que l'un des critères pour l'attribution du 3919 ne soit finalement pas seulement la compétence, mais aussi la capacité à réduire les frais de fonctionnement. En clair, un service moins cher à financer pour l'État, mais dont l'efficacité pourrait largement en pâtir, car la plateforme est déjà en flux tendu. Face à ce risque, il sera de la responsabilité du gouvernement de faire œuvre de transparence dans les prochains mois, car non, peu importe le bord politique, il n'est pas moralement acceptable de faire des économies sur le dos des victimes de violences conjugales.
Merci Glenn, je me permettrai malheureusement de souligner que notre gouvernement semble avoir une interprétation toute personnelle de ce qui est moralement acceptable. Jusqu'à nouvel ordre continue, après une parenthèse où vont se glisser quelques furtives notes de musique, à tout de suite. Don't be the girl, I'm my boy. Don't be the girl, I'm my boy. Stare in the light, in your green eyes. Don't be the girl, I'm my boy. So fun with your heavy diamond eyes. Beats a Girl Out of My Boy de Anna Calvi, Radio Campus Paris. Tu es toujours à l'écoute de Jusqu'à Nouvel Ordre.
Jusqu'à Nouvel Ordre, du lundi au jeudi à 19h sur Radio Campus Paris.
Alors en ce qui me concerne, mes 20 ans, c'était il y a 13 ans déjà. Hein, Sarkozy était élu président de la République. Je pensais qu'on pourrait pas faire pire pour fêter un si bel anniversaire, que j'étais naïf. Cet état en suspension de la société qui dure depuis bientôt 9 mois accouche d'un mal-être palpable. Il y a la précarité, la violence du gouvernement, le recul des libertés, mais aussi la fatigue, l'isolement, l'épuisement. Et puis les populations touchées, les jeunes, les étudiants, les étudiantes, subissent cette crise comme tout le monde. Pour en parler, Zoé Nebois est allée interroger Elsa, étudiante en médecine à l'université de Saint-Quentin, et Nicolas Serradi, bénévole formateur et membre du conseil d'administration de Nightline, une plateforme d'écoute pour étudiants et de soutien psychologique.
Avoir 20 ans en 2020, c'est dur. Mais avoir 20 ans et être étudiant peut avoir de lourdes conséquences sur sa santé mentale. Les étudiants sont les grands oubliés de ce deuxième confinement, et leur bien-être psychologique en paye le prix. Contrairement à une grande partie des actifs, qui continuent leurs activités, et les écoliers du secondaire, qui se rendent en cours, ils sont nombreux à partager le sentiment d'être laissés pour compte. Entre solitude, précarité économique et journée de 8 heures sur Zoom, de plus en plus d'étudiants se sentent décrochés de leurs études. Mais le plus inquiétant dans tout ça, ce sont les symptômes dépressifs et d'anxiété dont les courbes statistiques en population étudiantine concurrencent dangereusement celles des cas Covid. Selon une enquête de l'Observatoire de la vie étudiante, publiée en novembre, au printemps, 50% ont déclaré avoir souffert de solitude et d'isolement, et 31% ont présenté des signes de détresse psychologique. La seconde vague ne présente pas de signes d'amélioration. Pensées suicidaires, insomnie chronique et même développement de troubles psychotiques se multiplient par rapport au premier confinement. Je reçois aujourd'hui Elsa, étudiante en médecine à l'Université Paris-Ouest, qui elle aussi vit plus difficilement ce confinement automnal. Puis, je recevrai Nicolas Serardi, bénévole formateur et membre du conseil d'administration de Nightline, qui viendra nous parler de cette association étudiante proposant un service gratuit d'écoute nocturne pour étudiants en détresse psychologique. Bonsoir Elsa et merci d'être venue témoigner.
Bonsoir, merci à vous.
Lors de la première vague au printemps dernier, tu t'étais portée volontaire pour renforcer l'équipe d'un EHPAD où la situation était très critique. Comment as-tu vécu cette expérience ?
C'était quelque chose vraiment d'exceptionnel dans ma vie. C'était très très fort en émotion. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai pu rencontrer beaucoup de résidentes dans l'EHPAD avec qui je pouvais parler, dialoguer. Et j'ai senti aussi de leur côté la difficulté qu'ils avaient à vivre ce confinement. Ils ont même connu avant même que la population soit confinée. J'ai vu bien sûr le Covid qui les a touchés. J'ai vu des décès, j'ai vu des aides-soignantes qui étaient vraiment qui étaient au bout, qui n'en pouvaient plus. Et c'était vraiment très, très difficile. Et en tant qu'étudiante en médecine, comme c'était ma première réelle expérience en tant qu'aide-soignante dans ce milieu-là, et encore plus en EHPAD, j'ai vécu cette période vraiment, vraiment très, très dure. Émotionnellement, physiquement. Ouais.
Je me demandais justement par rapport à cette expérience, est-ce que depuis la perspective de devenir soignante, pour toi, ça a assombri ? Est-ce que tu as déjà remis en question du coup ton orientation professionnelle depuis le début de la crise ?
Oui, bien sûr. Assez paradoxalement, pendant que j'étais en mission donc dans cet EHPAD, je me suis quand même rendu compte de la beauté en fait de ces métiers dans le domaine du soin, que si on était là, c'est conservé vraiment pour toutes les personnes qui nous entourent, que notre rôle était vraiment essentiel. Mais avec tous les efforts que j'ai pu donner et toute la beauté du métier, j'ai voulu en fait potentiellement arrêter mes études et partir totalement ailleurs, pas du tout dans le soin. Je voulais même potentiellement m'orienter dans le sport. Voilà, c'est une question que je me suis posée pendant tout le confinement, même jusqu'à mes partiels. Et puis, bon, finalement, les choses ont fait que je suis toujours là, que le choix s'est fait un petit peu tout seul, finalement. Je m'étais dit que si je ne passais pas mes examens, peut-être que effectivement je ferai une année d'arrêt dans le sport, une année sabbatique. Mais bon, comme j'ai pu passer tous mes examens avec beaucoup de difficultés quand même, je suis toujours là. Voilà.
Ouais, bravo. Et je me demandais par rapport aux chiffres qu'on a évoqués précédemment, est-ce que toi tu trouves ce deuxième confinement encore plus difficile à vivre que le premier qui était déjà compliqué ?
De mon côté, je ne vis pas la même chose qu'au premier confinement. Le premier confinement, pour moi, a été vraiment le plus dur. Donc, sans dire qu'en ce moment, ce n'est pas difficile pour moi non plus. Malgré tout, je le vis quand même mieux. Comme je ne fais plus tout ce que j'ai pu faire à la première vague, pour moi, ça se passe plutôt mieux. Après, je comprends très bien que pour tous les autres étudiants, les jeunes et même les moins jeunes, ce deuxième confinement peut être plus dur à vivre aussi, parce que beaucoup de personnes se sont beaucoup données la première fois pour respecter les règles, pour rester chez soi pendant 2 mois, parfois même isolé et seul. Et le refaire une deuxième fois, c'est vraiment très compliqué.
Contrairement à mars dernier, finalement, les établissements d'enseignement supérieur, les universités, ont eu le temps de se préparer à une probable nouvelle fermeture. Et est-ce que toi, tu as le sentiment d'être accompagnée par ta fac, par ton université, dans les cours à distance, mais pas seulement, comme tu es en cinquième année de médecine, tu travailles déjà en partie ?
Oui, effectivement, mais pas du tout, en fait. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout l'impression d'être mieux accompagnée que la première fois. Nous, on a effectivement donc, les quelques rares cours et examens donc, à distance. On travaille à l'hôpital à mi-temps. Donc, toutes les matinées, on est sur place à l'hôpital. Cette fois-ci, notre stage a été maintenu, contrairement à la première vague. Mais en fait, personne n'en parle. On n'a aucun retour, on n'a pas vraiment de retour de ni nos professeurs, nos chefs de service. Et pourtant, on a eu quand même quelque chose que je trouve vraiment très très bien et que je remercie énormément le groupe des étudiants, les élus qui nous accompagnent. C'est qu'on a eu un sondage dans notre promo pour évaluer en fait notre santé mentale à tous ceux qui voulaient y répondre. Et les résultats ont été publiés entre nous. Et je vous avoue que les résultats ont été quand même très inquiétants. Vraiment très, très inquiétant. Ces résultats auraient été transmis donc, à la faculté, à tous nos chefs de service qui ont été prévenus de cette urgence, de cet énorme problème et que potentiellement, ils pourraient venir vers nous pour nous en parler ou pour qu'ils puissent nous proposer leur soutien. Et pour ma part, en tout cas, j'ai eu aucune personne n'est venue vers nous pour ce soutien-là, excepté une des chefs, parce que le hasard a fait qu'en ce moment, je suis en stage de psychiatrie. Et donc, la santé mentale dans nos stages, c'est le point central de leur spécialité. Et donc, une des chefs est venue nous voir, et c'est bien la seule, depuis même le premier confinement, qui nous a posé la question pour savoir comment on se sentait vis-à-vis de la situation. Le soutien, non, je le ressens absolument pas. Et des solutions auraient été mises en place pour avoir du soutien, mais voilà, on n'a pas plus de nouvelles que ça. Personne n'est au courant du fonctionnement de ces nouveaux systèmes. Donc, on se sent quand même un peu abandonné.
C'est regrettable et c'est quelque chose qui malheureusement ressort beaucoup dans les études faites auprès de l'ensemble des étudiants, de ces sentiments d'être laissés un peu à eux-mêmes et isolés. Et je me demandais par rapport à toi, si tu te sentais toi-même isolé, si tu arrivais à en parler, et est-ce que, comme beaucoup d'autres étudiants, tu as du mal à demander un suivi psychologique que tu pourrais avoir besoin?
Effectivement, je ressens beaucoup le besoin de soutien. Je ne me sens pas particulièrement isolée en termes de présence physique parce que j'ai la chance d'être avec mes parents, d'être avec eux, d'être confinée avec eux. J'ai aussi quelques amis qui peuvent être là si j'ai besoin d'aide, mais malgré tout, les amis et le besoin qu'on a réellement profondément à l'intérieur, c'est malheureusement pas la même chose. Et effectivement, j'ai dû avoir recours à un soutien psychologique. Pour moi, la difficulté, j'ai pas eu tellement de difficulté à avoir recours à ce besoin-là. Parce que je sais via le site de ma fac qu'il existe des psychologues et des personnes qui s'occupent de la santé mentale dans notre université. Donc j'avais pris contact avec une de ces personnes, avec qui j'ai toujours un suivi d'ailleurs. Et c'est une aide qui a été pour moi essentielle, absolument indispensable.
Bah, c'est super parce qu'il n'y a pas tout le monde qui ose demander de l'aide. Et donc c'est super. Et j'aimerais te poser une dernière question avant qu'on se quitte, Elsa. Il y a des étudiants qui t'écoutent sur Radio Campus Paris, très probablement. Et qu'est-ce que tu aimerais leur dire ?
J'aimerais leur dire que si les étudiants sentent le besoin d'en parler à des personnes ou d'avoir un soutien psychologique, c'est vrai que on peut croire qu'il n'y a plus de solution, que nous on utilise le terme d'incurabilité, c'est-à-dire qu'on a la sensation que ça ne s'arrangera jamais, qu'il n'y a pas de solution. Et effectivement, l'isolement contribue en fait au fait que ces étudiants n'ont pas la démarche d'aller chercher de l'aide, de s'informer autour d'eux et d'aller chercher par exemple sur le site de la fac s'il existe un soutien psychologique et trouver le numéro. Donc malheureusement, même si les étudiants savent quelque part qu'il est possible d'avoir de l'aide, en fait, faut vraiment pas hésiter à réellement aller le chercher. Parce que c'est la réelle solution. Je tiens beaucoup à la santé psychologique parce que j'ai pu voir que ce soit à travers les personnes âgées, mon entourage ou moi-même, l'importance de la santé psychologique. Et il ne faut vraiment pas hésiter à en parler parce que c'est ça qui peut réellement sauver des vies et sauver les étudiants.
Merci beaucoup Elsa pour ton témoignage d'étudiante en médecine. Je te souhaite du courage ainsi qu'à tous nos auditeurs. Si nous sommes tous isolés les uns des autres, nous ne sommes pas seuls. Et sur une note plus positive, des initiatives solidaires se multiplient.
Jusqu'à nouvel ordre, du lundi au jeudi à 19h sur Radio Campus Paris.
Nicolas Sirardi, bénévole et membre du conseil d'administration de Nightline, est avec nous pour nous parler de cette association gérée par des étudiants, pour des étudiants, qui offre un service d'écoute de nuit, anonyme et gratuit. Nightline France et ses 70 bénévoles se présentent comme un cadre bienveillant pour libérer la parole des étudiants dans le secret de l'anonymat. Et ils en ont bien besoin, selon des chiffres très alarmants. 11% des étudiants ont eu des idées suicidaires pendant le confinement, selon l'enquête Confin de l'étude iShare 2020. Nicolas Serardi, bonsoir et merci d'être avec nous.
Bonsoir.
Comme nous l'avons vu avec Elsa, étudiante en médecine, ce deuxième confinement engendre une augmentation des troubles psychologiques, de dépression et d'anxiété chez les étudiants. Est-ce que vous ressentez cette aggravation chez Nightline, dont la ligne est ouverte depuis 2017 en France ?
Alors, on observe une conséquence nette de la pandémie, en particulier du confinement. Ce qu'on observe, en fait, c'est qu'il y avait déjà une crise préexistante au niveau de la santé mentale étudiante en France. Parce que voilà, c'est un moment clé de notre construction. On apprend beaucoup, on rencontre les gens, etc. Et c'est les études, c'est déjà un moment de doute où il y a plein de sujets qui vont nous poser des questions, qui vont nous déstabiliser, etc. Chez Nightline, on était déjà habitué à écouter de nombreuses situations très différentes. Et en fait, le contexte de la pandémie va vraiment dégrader chacune de ces situations et va ajouter une espèce de chape de plomb qui va dégrader chaque situation personnelle, finalement.
Quelle aide vous apportez précisément à ceux et celles qui font appel à vous ?
Alors nous, on est un service d'écoute, ce qui veut dire que ce qu'on offre, c'est un espace de non-jugement et anonyme, où les étudiants qui nous appellent seront libres de pouvoir aborder n'importe quel sujet. Dans cet espace-là, ils vont être écoutés par un autre étudiant, qui sera bénévole et spécialement formé à l'écoute.
Parce que, du coup, les bénévoles de l'association, on le rappelle, sont aussi des étudiants. Et est-ce que le fait d'avoir le même statut que vos interlocuteurs, ça les aide à se livrer ?
C'est ce qu'on espère, oui. En fait, on évite de se placer dans un schéma qui serait pareil à ce qu'on aurait avec un psychologue, par exemple, ou dans un cadre médical. On ne veut pas concurrencer ça. Ce qu'on est, c'est vraiment une écoute par les pairs. Si un étudiant qui est en difficulté ne veut pas se confier à sa famille ou ne veut pas se confier à ses amis ou il ne veut pas non plus avoir recours à un professionnel, et ben, on est une alternative. On est anonyme et des étudiants. C'est nos caractéristiques.
Et je me demandais, dans la situation très particulière qu'on vit, où le fait d'être coupé de toute forme de sociabilité étudiante est très pénible, il n'y a plus de fêtes, il n'y a plus d'événements sportifs ou autres. Et d'une certaine manière, est-ce que le défi de Nightline, ce n'est pas aussi de rétablir ce contact social entre étudiants, enfin, en ce moment en tout cas ?
Alors, je pense que Nightline ne peut pas remplacer toutes les interactions étudiantes qu'il y avait avant, bien sûr. Le confinement, ça représente énormément de pertes sur la vie étudiante, puisqu'il y a plus de passage au campus, il y a plus toutes les interactions avec les professeurs, avec les amis, etc. Voilà, nous on est un espace d'expression là-dedans. Disons qu'on permet de rétablir un espace d'expression. Qui permet de décharger certaines angoisses. Cependant, je doute que ce soit entièrement suffisant pour résoudre tous les problèmes liés à ce confinement.
Non, bien sûr. Et est-ce que vous avez recueilli des témoignages d'étudiants qui se ressemblent, qui sont similaires ? Et est-ce que vous en avez tiré des conclusions ? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire selon toi ?
Alors, pour nous, chaque appel est différent et chaque appelant va avoir sa propre histoire. Ce qui est certain, c'est qu'en ce moment, il y a le contexte de la pandémie, du confinement, qui ajoute une solitude et qui ajoute une anxiété qui est bien souvent partagée. On va éviter quand même de faire des analyses, de faire des généralisations pour vraiment se concentrer sur l'écoute des appelants.
Dans un rapport publié par l'association, oui. le manque de propositions d'aide psychologique pour étudiants est pointé du doigt. D'ailleurs, Elsa, avec qui nous avons discuté avant, a témoigné de cette même insuffisance dans sa faculté à elle. Comment ce manque se manifeste concrètement, en fait, dans le système d'enseignement supérieur en France?
Alors, ce qui est souligné par le rapport dont vous parlez, c'est le fait que aujourd'hui en France, on compte 30 000 étudiants pour un psychologue en service de santé universitaire.
C'est peu.
Ce qui est énorme, ce qui est en fait bien au-delà des recommandations internationales qui recommandent plutôt un chiffre entre 1 000 et 1 500 étudiants par psychologue. Et ce qui est également bien au-delà des valeurs qu'on peut trouver dans des pays voisins. Le rapport en particulier compare avec des pays anglo-saxons. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai manque de moyens pour ces services-là. Déjà avant la crise, avant le confinement, ces services devaient répondre à beaucoup de demandes. Ils étaient déjà débordés. Ils ont observé une hausse des sollicitations depuis le début de l'année, depuis les deux confinements. Nous, ce qu'on préconise, c'est une augmentation des moyens, avec d'abord des moyens financiers pour embaucher plus de postes, plus de psychologues, ouvrir des postes, également donner plus de moyens matériels, avec notamment des locaux adéquats. Et puis attribuer des services administratifs qui soient dédiés et qui permettent d'alléger toutes les tâches administratives pour ces psychologues. En parallèle de ça, il faut aussi revaloriser ces métiers, que ce soit des emplois plus stables avec des grilles salariales qui soient revalorisées. Et puis il faut aussi se donner les moyens de prendre le pouls de la santé mentale dans les universités en développant des indicateurs communs et qui nous permettraient du coup d'évaluer et puis d'avancer, de prendre les mesures adéquates. Voilà.
Ben justement, cette émission en est la preuve d'une certaine manière, parce que les problèmes de santé mentale des étudiants commencent progressivement, lentement, à être abordés dans l'espace public. À titre personnel, est-ce que l'association pense que le mal-être étudiant n'est pas assez pris au sérieux, et surtout en cette période?
Ce qui est clair, c'est que aujourd'hui, la situation apporte un nouvel éclairage là-dessus. On pense que cette problématique n'était pas du tout mise en valeur avant. Était vraiment oubliée, délaissée. Aujourd'hui, il y a un éclairage grâce à ça, au moins. Et il faut en profiter, même si la situation est aggravée. Il faut profiter de cet éclairage pour insister sur les problèmes et pour essayer de trouver des solutions à tout ça.
Est-ce que ça vous semble normal que ce soit des étudiants bénévoles qui s'occupent d'autres étudiants dans le besoin, dans la mesure où ça pourrait être un service pris en charge par des institutions étatiques, par exemple?
Alors, je pense que c'est deux fonctions différentes. Et je pense qu'on a besoin des deux. On a besoin de services de santé universitaire qui ont des moyens. Et on a aussi besoin d'associations comme la nôtre. On joue sur deux plans différents. Les services de santé universitaire, ils sont au niveau médical, ils sont au niveau du soin, donc ils peuvent faire beaucoup plus de choses que nous. Cependant, une asso comme Nightline, on permet d'être à un niveau un peu plus préventif, on permet d'écouter les angoisses avant que ça se transforme en des troubles plus graves. Donc, on est, un moyen du dispositif et qui est complètement complémentaire avec les services de santé universitaire, mais qui, eux, de toute façon, ont besoin de plus de moyens.
Et enfin, pour finir, une dernière petite question. Est-ce que toi, Nicolas Sarardi, en tant que bénévole de l'association Nightline, tu aurais envie de dire quelque chose aux étudiants qui nous écoutent ce soir sur Radio Campus Paris et qui n'osent pas demander de l'aide?
Oui. ce que je peux dire, c'est qu'il faut pas hésiter à appeler. Il ne faut pas hésiter à en parler. Si vous avez besoin d'en parler à vos proches, faites-le. Si vous préférez appeler un service d'écoute anonyme comme Nightline, c'est possible et on est là pour vous. Voilà. Et puis il y a aussi les centres, enfin il y a aussi les services médicaux et professionnels, voilà, qui sont peut-être un peu chargés en ce moment. Voilà, mais il faut surtout, il faut pas hésiter à en parler et à s'ouvrir, parce que sinon on risque de tout aggraver en fait.
Merci Nicolas Serardi d'être venu parler au nom de l'association Nightline, proposant des oreilles anonymes pour étudiants en détresse psychologique. À nos auditeurs, sachez qu'ils ont maintenant 4 lignes actives, une à Paris, à Lille, à Lyon et la plus récente à Saclay. Merci encore aussi à Elsa, qui est venue nous parler de son expérience des 2 confinements en tant qu'étudiante en médecine. Prenez tous soin de vous et n'hésitez surtout pas à demander l'aide dont vous avez besoin.
Merci à Zoé Nebois d'avoir recueilli ces témoignages. Si tu te sens seule, auditrice, n'hésite pas. Il y a des gens prêts et prêtes à t'aider. Ose, franchis le pas. Il n'y a aucune honte à avoir, aucune honte à demander un peu d'aide, aucune honte à demander un peu de soutien. Et du soutien, la musique parfois, ben, ça adoucit les mœurs et fait relever les têtes. Alors on se retrouve juste après quelques mesures. I went down to the bank just to get me a pay. I'm gonna get me out of here. I got me some cash, I'm headed back to LA. I'm gonna get me out of here. I'm sacking the man, cause the man is a thief. C'est à propos Get Me Out of Here de Jet sur Radio Campus Paris. Le 93.9 est toujours là en ces temps confinés et on continue avec Jusqu'à Nouvel Ordre.
Jusqu'à Nouvel Ordre, du lundi au jeudi à 19h sur Radio Campus Paris.
Alors sur mon conducteur, il y a écrit Chronique 2. Balance ta rédaction, Chloé Bergeret et Mathis Joubert. Voilà. Hein, démerde-toi, va écrire un lancement avec ça. Du coup, je vais faire ce qu'on me demande. Hein, je sais, de source sûre, qu'il paraît qu'on aurait dit à quelqu'un qui a un ami dont le frère a une sœur qui travaille dans un cabinet d'ergothérapie à côté de l'agence de communication tenue par l'oncle d'une personne bien placée dans les amis Facebook d'une conseillère de l'Élysée, que Pitoum, c'est pas mon vrai nom. Hashtag Quanon, hashtag complot, hashtag révélation, hashtag nous sachons.
La photocopieuse de la salle de rédac ne marche plus. Faut faire comme avec les femmes et taper dessus.
Entendu chez TF1.
Ah mais putain, là je crois qu'on vient de recruter un PD.
Entendu chez Loopsider.
Ras-le-bol de foutre en maquette des meufs trans noires. Il faut changer un peu.
Entendu chez Styliste.
Vous ne rêvez pas, rien de tout ça n'est ironique ou fictif.
Toutes ces petites pépites sont répertoriées sur le compte Instagram Balance ta rédaction, actif depuis le 14 novembre et créé par des journalistes et des ex-journalistes. Épiphénomène d'un mouvement plus large, ce hashtag Balance ta rédac s'inclut dans une vague de dénonciation et de libération de parole depuis le mouvement Balance ton porc en 2017.
Bref, rappel des faits.
En 2017, le hashtag Balance ton porc est lancé par la journaliste Sandra Müller sur Twitter. Elle écrit « Hashtag Balance ton porc, toi aussi raconte en donnant le nom et les détails d'un harcèlement sexuel que tu as connu dans ton boulot. Je vous attends. » Suite à la déferlante MeToo aux États-Unis, la journaliste a voulu libérer la parole des femmes victimes de harcèlement sexuel, leur permettre de dénoncer sur les réseaux sociaux leurs agresseurs, si souvent impunis et bien loin d'être inquiétés. Alors aujourd'hui, le hashtag Balance ta rédaction s'inscrit dans cet héritage, dénoncer des propos sexistes, homophobes ou encore racistes et nommer les rédactions qui tolèrent ce genre de discours. Le compte Instagram s'autoproclame « collectif contre toutes les oppressions et le harcèlement dans les médias » et recense des témoignages divers. S'il n'hésite pas à citer les journaux concernés, le compte Insta conserve l'anonymat des victimes ou témoins.
Et pourquoi ça ?
Alors, contrairement à Balance ton porc, Balance ta rédaction n'est pas la parole libérée d'individus particuliers, attaquant d'autres individus particuliers. C'est la parole anonyme d'individus qui préfèrent passer par l'intermédiaire du compte Instagram pour dénoncer une rédaction et non pas une seule personne. Ce fonctionnement est symptomatique finalement d'une certaine politique de l'omerta et du tabou au sein du milieu du journalisme. La pression est telle et les places valent si cher que dénoncer un supérieur hiérarchique abusif peuvent se révéler très dangereux. Alors comment faire ? Se taire, espérant que les choses vont bouger d'elles-mêmes ?
Mais les choses bougent lentement.
En 2015 déjà, des journalistes femmes avaient poussé un cri de ras-le-bol publiant dans Libération une tribune « Nous, femmes journalistes, politiques et victimes de sexisme ». Signée par une trentaine de journalistes, cette tribune dénonce le paternalisme lubrique du monde politique et le harcèlement, monnaie courante dans le rapport entre journalistes et politiques. Des remarques sur le physique, des propositions à dîner, des propositions à aller au théâtre, des blagues grivoises qui viennent sans cesse rappeler à ces journalistes femmes que le domaine professionnel qu'elles ont choisi est loin d'être tout rose. Lorsqu'elles cherchent à en informer leur rédaction, on leur répond que c'est normal, le prix à payer finalement lorsqu'on veut exercer ce métier. Métier qui a aussi été ébranlé en 2019 lors de la révélation des agissements sournois de la Ligue du LOL.
C'est un groupe Facebook très actif, créé par des amis journalistes, communicants et publicitaires dans les années 2000, qui a fait l'objet d'une attention particulière l'année dernière avant de devenir l'emblème du harcèlement sexiste en ligne. Très loin d'une simple conversation privée entre camarades, avec quelques blagues et un cigare en bouche, la Ligue du LOL a été pointée du doigt pour des faits de harcèlement en ligne. Et dans la vie hors réseau, que je préfère au terme in real life. Virtuel ou non, les faits touchent la vraie vie. Les harcèlements sont variés et ont très souvent pris l'allure des blagues ou railleries publiques, qui mises côte à côte depuis une dizaine d'années donnent une toute autre ampleur à une simple discussion privée. C'est Libération qui avait mis le feu aux poudres le 8 février 2019 en révélant l'affaire. Opération de déstabilisation en interne au sein des rédactions, pression psychologique. Si le parquet a été souvent informé des faits, beaucoup de plaintes ont été classées sans suite ou abandonnées. Pour autant, chez les grandes rédactions comme les Arocs ou Libération, certains des journalistes accrédités aux faits, reprochés, ont été suspendus, voire licenciés pour faute grave. Elisabeth Laborde, directrice des Arocs, pointait en mars 2019 un problème de libération de la parole dans la presse, suite aux révélations. Malgré la connaissance en interne des faits, la réaction des rédactions intervient malheureusement encore trop souvent quand le harcèlement devient gênant, d'où l'importance de la libération de la parole. Quelques jours après la Ligue du LOL, la parole s'est libérée au sein des écoles de journalisme. À l'ESJ, des étudiants ont relaté des chants racistes, sexistes ou homophobes de la part de garçons au sein de l'école. La direction a annoncé l'ouverture d'une enquête interne suite à l'incident. Des élèves, diplômés de l'école de journalisme de Grenoble, ont quant à eux fait état de moqueries permanentes pendant leurs études et des propos haineux. Le tabou persiste, aujourd'hui dans les rédactions, où la discussion est délicate. La difficulté à se remettre en cause s'illustre dans ces hashtags « Balance ta rédaction », encore trop peu efficace dans le monde du journalisme.
Très peu de rédactions ont réagi, et on sent une forme de paralysie et de gêne face au discours problématique recensé sur ce compte. Des propos transphobes ou racistes dans des médias de gauche, ce sont des réalités difficiles à avaler. La parole révèle des dysfonctionnements internes, questionne les acteurs et invite au changement. Loopsider, visé par une dizaine de témoignages, a souhaité répondre, invitant les victimes à se manifester, et Tarmac, média belge, cherche à identifier les responsables de tels propos. Mais ces réactions restent des exceptions. Le silence est d'ordre. On note quelques timides tweets de jeunes journalistes qui incitent à passer voir le site et à témoigner. Mais la grande majorité des rédactions reste muette. Le compte Instagram dénonce même des tentatives de pression et de hacking.
L'omerta bien ficelée du monde professionnel et relationnel au sein des rédactions doit être brisée. Chacun a son rôle à jouer.
Merci beaucoup Chloé et Mathis. C'était exactement ce à quoi je ne m'attendais pas.
Jusqu'à nouvel ordre, du lundi au jeudi à 19h sur Radio Campus Paris.
Il était temps, c'est le nom d'une opération spéciale proposée par Arte. Pendant 4 soirées depuis hier, la chaîne franco-allemande consacre son antenne à des documentaires réalisés par des réalisateurs et réalisatrices de moins de 35 ans. Aujourd'hui, Nolwenn a interviewé à distance Marine Gysi, la réalisatrice du documentaire. Alors, heureuse ?
Bonjour Marine Guizy, merci d'être avec Radio Campus aujourd'hui. Vous êtes la réalisatrice du documentaire Alors Heureuse à l'affiche ce soir à 22h30 sur Arte, bien sûr en replay sur Arte TV. Pendant une heure et quart, vous brossez le portrait de la génération des 20-35 ans, les questionnant sur leur rapport au bonheur dans cette société où tout semble s'écrouler. Vous êtes diplômée d'une école de journalisme. Pourquoi avoir voulu faire ce film maintenant ?
Est-ce qu'il fallait que je le fasse avant, après ou maintenant ? Je ne sais pas s'il y a vraiment une réponse à ça. En tout cas, je sais que ça me semble nécessaire aujourd'hui de poser cette question du bonheur ou cette question d'être heureux, qui sont deux questions très proches, mais au final très différentes, à notre génération, en tout cas à ma génération, puisque moi j'en fais partie, sachant qu'on nous a toujours dit qu'on allait plus ou moins droit dans le mur dans la société dans laquelle on vit.
Et alors, quelle est la différence entre ces deux questions, être heureux et le bonheur ?
Alors, je ne vais pas dévoiler et reprendre tout ce que les personnages du film disent, mais il me semble qu'en tout cas, la notion du bonheur est une notion plus philosophique, avec une quête dans laquelle on peut se perdre, je pense, assez facilement aujourd'hui dans notre société dite de consommation, là où la question de « est-ce que je suis heureux ou heureuse » serait une question qui serait plus du côté de l'instantané et d'une réponse à un moment donné quand on nous pose la question.
Alors, pour dresser ce portrait de la génération, de cette génération, vous racontez que vous avez lancé une bouteille à la mer en expliquant votre projet de documentaire. Vous avez reçu beaucoup de réponses. Comment vous avez choisi les gens que vous avez rencontrés ?
J'en ai rencontré beaucoup. J'en ai rencontré 65. J'ai fait 65 entretiens jusqu'au moment où je me suis aperçue que j'avais même du mal à dire non aux entretiens. Parce que je pars d'un principe tout à fait naïf dans le documentaire où je pars du principe que tout le monde a quelque chose à dire. Et donc, j'ai enchaîné les entretiens comme ça, de personne en personne. Quand il y avait un entretien qui se passait bien, souvent la personne en parlait autour d'elle. Et donc, du coup, les gens m'appelaient, m'envoyaient des messages. Et puis sur les réseaux, après, ça a pris comme ça une ampleur petit à petit. Mais ce qui m'a permis au final de pouvoir avoir la plus grande diversité possible dans les entretiens et ensuite de pouvoir réussir aussi à faire mon film. Puisque mon film, en 75 minutes, je ne peux pas faire un catalogue sociologique de notre société et de notre génération. Mais en tout cas, oui, il y a beaucoup, beaucoup de rush et j'aimerais un jour en faire de l'audio, je pense. Voilà.
Ok, très, très bien. Du coup, voilà, vous racontiez que vous avez rencontré une soixantaine de personnes. On vous voit, on les voit à Paris, à Marseille, en Belgique, avec une ambiance qui est assez chaleureuse. Parfois, on est chez les gens, parfois, on boit un café avec eux. Il s'agit bien d'un documentaire, mais on ne voit pas, comme on pourrait le voir dans d'autres documentaires, un petit bandeau qui apparaît avec le nom et le prénom, la fonction de la personne. On est plutôt dans un documentaire intimiste. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller dans cette direction ?
C'est ce que j'ai toujours voulu faire, je crois, depuis que j'ai rencontré le documentaire en troisième année de journalisme, puis en master à l'Université d'Aix-Marseille de façon plutôt de documentaire dit d'auteur. J'ai toujours été intéressée par l'intime, par le fait de passer vraiment par le jeu et par l'élaboration et se surprendre parfois de réflexions intérieures qu'on peut avoir et d'associations d'idées. Je sais pas si je serais vraiment faite pour faire d'autres films, ça je verrai dans le futur, mais en tout cas pour le moment, c'est le biais de l'intime pour moi, c'est le biais de l'écoute le plus privilégié. Enfin, il y a quelque chose comme ça, je trouve, de très généreux dans le fait de parler par son intime.
Et comment on fait alors pour créer cette intimité avec les personnes qu'on interroge, pour créer une proximité comme ça ? Comment on fait pour que la caméra soit oubliée, pour avoir de la sincérité dans les propos ?
Je pense que la caméra n'est jamais oubliée, mais en tout cas, ce que je voyais dans tous les entretiens ne marchent pas, toutes les rencontres ne marchent pas. Parce que je pense qu'avant tout, c'est une rencontre entre la personne et moi-même. Moi-même en tant que personne, puis en tant que réalisatrice. C'est comme ça quelque chose un peu entre les deux. Et en tout cas, quand les entretiens marchent, la caméra est jamais oubliée, mais la personne qui répond est OK avec le dispositif. Je crois que c'est vraiment une question de consentement et de confiance qu'ils m'ont accordé tout d'un coup, comme ça, pendant une après-midi, deux jours, trois jours, de « je suis d'accord d'élaborer avec toi, je te fais confiance, j'ai conscience de ta caméra ». Et en gros, ne me déçois pas. Donc moi, c'est une pression aussi que je me mets après au montage de ne pas faire n'importe quoi avec leur confiance, avec leur parole.
Donc on les voit se confier face caméra avec vous. Et il y a aussi toute une partie, c'est un peu plus une mise en scène de l'amour, il y a plus de poésie avec des personnages qui se mettent littéralement à nu. Et concrètement, comment vous y êtes prise pour cette séquence ?
Eh ben, je l'ai fait, oh là là, en plus il y avait eu le confinement, le Covid, les masques, donc c'était devenu très compliqué. Mais j'ai tendu une toile de lin dans ma salle de montage. Et avec mon assistant réal Théo Bréchet, on a fait marcher pour le coup nos réseaux un peu plus proches pour des questions sanitaires et de logistique. Et donc j'ai donné des créneaux d'une heure comme ça à des gens pour venir se rouler des galoches devant ma caméra. Et ça a été un moment très particulier, très étrange, où tout d'un coup il faut très vite casser la pudeur qu'on peut avoir. Mais encore une fois, ça s'est bien passé. C'est sympathique, quoi. Je pense que ce rire qu'on peut souvent entendre dans le film, c'est peut-être l'une des choses qui fait que ça marche bien avec les gens, peut-être.
Vous avez gardé un lien avec toutes ces personnes que vous avez rencontrées pour tourner ce documentaire, Marine Guizy ?
Eh ben, j'en ai certains et certaines qui sont devenus des amis, d'autres c'est encore à l'état de connaissance, certains avec qui on s'est juste échangé un mail, parce que j'ai pas encore fini, d'envoyer des mails à tout le monde, peu importe la durée d'apparition ou de parole. Mais bon, de façon assez réaliste, je pourrais pas garder presque 80 liens à la même hauteur, mais oui, il y en a certains avec qui j'ai créé des liens plus.
Et finalement, est-ce que faire ce documentaire, ça vous a fait changer de regard sur la génération que vous avez filmée ?
Ça m'a pas fait changer de regard, mais ça m'a confirmé quelque chose. Ça m'a confirmé que parfois cette sensation d'entre-soi qu'on a tous, en tout cas que tous les personnages du film ont et que moi je peux avoir, et ben ça fait beaucoup d'entre-soi qui se connaissent pas, qui sont pas connectés, mais qui, si tout d'un coup s'ils deviennent connectés, peut-être que quelque chose d'autre est possible pour le futur. Et j'ai été très marquée plus jeune d'un film de Colin Serrault qui s'appelle Solution locale pour un désordre global. Et je crois dur comme fer au fait que plein de petits noyaux, s'ils se mettent en lien, créent un peu une toile d'araignée et peuvent bousculer certaines choses. Alors pas à l'échelle mondiale, hein, je pense pas qu'on changera le monde, mais en tout cas à des échelles locales, je pense que les choses, elles sont possibles. Ça me donne un peu d'espoir.
Et une dernière question, qu'est-ce qui vous rend heureuse aujourd'hui ?
Vous êtes la première journaliste à me poser cette question. Je pensais qu'on allait me la poser beaucoup plus. Qu'est-ce qui me rend heureuse aujourd'hui ? En confinement, c'est compliqué. Si, j'ai adopté un petit chat il y a trois jours et ça me rend très heureuse. Et j'ai d'autres films qui arrivent. Et ça aussi, ça me rend heureuse de continuer de donner la parole à des gens. Et puis ma compagne, sans aucun doute. Et les retours des gens. Voilà, en ce moment, ce qui me rend très heureux, ça serait plutôt ce triangle-là, les retours des gens que j'ai, de personnes que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, qui m'envoient des messages pour me dire qu'ils ont été heureux pendant 75 minutes et que confinés tout seuls chez eux, ça leur donne un peu d'espoir.
Eh bien, merci beaucoup, Marine Guizy. Je rappelle que vous êtes la réalisatrice du documentaire « Alors heureuse » à l'affiche, ce soir à 22h30 sur Arte. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à Nolwenn d'avoir recueilli les propos de Marine Guizy, je rappelle, réalisatrice du documentaire Alors heureuse d'ailleurs, en inclusif. Et puis, puisqu'on se pose la question, Félix de Radio Campus est allé dans les rues de Paris pour la poser, hein, cette question qui nous taraude à tous et toutes. Et bien, il a demandé tout simplement à des passants, sont-ils heureux ou heureuses? On écoute tout de suite ce que ça donne. J'espère qu'ils le sont un peu quand même.
On va dire que majoritairement non. Des fois, c'est juste une impression d'être heureuse et en fait, au profond de moi, ben non, en fait, je suis pas pleinement heureuse. Je sens qu'il me manque quelque chose. C'est incroyable, mais ouais, c'est comme ça. Et je me suis fait l'idée depuis longtemps que jamais je pourrais être pleinement heureuse.
Ça dépend des moments, des circonstances.
Ouais, est-ce que je suis heureux par moment, oui. Je sais quand je suis bien. Je sais qu'avec le temps, il y a des choses qui sont plus susceptibles de me faire du bien. Et celles-ci, je les garde, je les travaille. Et puis celles qui me font du mal, justement, je les laisse de côté.
Alors, je suis dès que ce soit l'automne et j'ai beaucoup de boulot. Donc voilà, c'est pas très agréable. J'aimerais davantage être dehors, mais je suis enfermée à la bibli, donc c'est chiant.
Moi, je fais une conversion, j'ai 41 ans. Et à 41 ans, je suis exactement où j'ai toujours voulu être.
Je sais pas, je pose pas vraiment la question parce qu'elle est un peu compliquée.
Est-ce que je suis heureuse? Je pense que oui, parce que j'ai pas particulièrement de problèmes dans ma vie. Je fais les études que je souhaite. Après, est-ce que je suis heureuse tout le temps? Non. Et je pense pas que l'homme est fait pour être heureux tout le temps.
Ouais, mais moi, je te dis, j'attends l'amour. Je te le dis. Non, mais c'est vrai. Non, par contre, tu vois, le truc, c'est que quand t'es amoureux, après, ça... T'oublies tout, quoi, tu vois. Tu lâches tout pendant un petit moment, tu vois.
Et des fois, j'ai bien des misères. J'ai perdu ma soeur. 44 ans. Et ma chère. Je suis bien embêté, croyez-moi.
Je trime pour arriver à payer mon loyer, payer tout, à garder les gamins. J'ai 10 000 choses en tête, mais je suis tellement heureuse d'être là. Tellement heureuse d'être là.
Au final, c'est bien l'introspection, mais pas pour se poser ce genre de questions. Plutôt pour se demander pourquoi est-ce que je cherche à être heureux.
Ouais, mais pour revenir au bonheur, c'est ça qui est génial, c'est qu'il n'y a pas la recette. Puisque finalement, il y a des milliers, des milliers, des milliards. Il y a autant de recettes qu'il y a d'êtres humains.
Mais voilà, Tipa, que l'heure qui tourne me pousse déjà en dehors de la grille. Autant, pourquoi ne laisses-tu jamais autant le temps de prendre son temps? Mais puisqu'il le faut, ainsi se termine ce numéro de Jusqu'à Nouvel Ordre. C'était un plaisir, auditrice, et j'espère qu'on remettra ça bientôt. Merci à toutes les divines personnes sans qui cette émission n'aurait été qu'un cri solitaire dans la nuit. Nos invités, Elsa ainsi que Nicolas Serradi. Merci aussi aux chroniqueurs et chroniqueuses, journalistes de la rédaction de Radio Campus Paris, Glenn Gillez, Oéne Bois, Chloé Bergeret, Mathis Joubert. Et enfin, un très grand merci à Colin pour le montage de cette émission et Anaïs pour la coordination. Tu pourras la retrouver en podcast, hein, l'émission, pas Anaïs, pas plus tard que bientôt sur radiocampusparis.org. Et reste à l'antenne, ce qui arrive après est forcément bien. Quant à moi, ne reste qu'à te souhaiter une très bonne fin de journée. Moi, j'ai quelques BD à finir pour surfer sur cette deuxième vague comme il se doit. Ciao Bella, ciao.